chronique de Canal Académie. On retrouve Françoise Thibault.
Le jour de l'Évangile aux îles de la Société. Si l'on peut se demander, avec une certaine raison, connaissant son histoire, pourquoi l'Australie n'est pas devenue française, on peut aussi s'étonner que Tahiti et ses îles associées, l'ensemble de l'archipel s'appelant les îles de la Société, ne soient pas britanniques. En effet, les débuts de la présence européenne furent presque uniquement anglais, si l'on excepte la brève escale de Bougainville accompagnée de l'enthousiaste Commerson, créateur de la dénomination Nouvelle-Citerre concernant Tahiti et de l'idyllique première description qu'il fit de l'archipel en langue française. Voir d'ailleurs notre fiche Commerson sur le sujet. En effet, Tahiti fut découverte par le capitaine Wallis de la Royal Navy sur le Dolphin en 1767. Il y trouva un peuple joyeux, très organisé, gouverné par la dynastie Pomare. Il baptisa immédiatement l'île King George III en hommage à son souverain régnant. Il alla aussi à Moréa, bientôt suivi de Cook, puis de Blight sur la Bounty en 1788. Tous trois pénétrèrent sur les rivages de l'île par la pointe Vénus, sur laquelle Stevenson, grand concepteur de lanterne marine devant l'Éternel et père de l'écrivain, dessina l'unique phare de l'île, lequel ne fut édifié qu'en 1866. Aucune allusion dans les récits ou les livres de bord britanniques à l'escale de Bougainville de 1768, ni aux observations ou herborisations de Commerson. La London Missionary Society ne tarda pas à s'intéresser à ces peuples dits « dépravés » et envoya bientôt un premier missionnaire, le révérend William Ebenezer Henry, qui débarqua du Duff avec l'évangile de la vraie foi le 5 mars 1797, accompagné de son épouse Sarah, tous deux Irlandais, à la pointe Vénus. En tout, la mission comportait 18 personnes, 4 missionnaires, les autres étant des charpentiers, des ferronniers, des artisans et des cuisiniers. Les occupants européens connurent de sérieux conflits avec le roi Pomare II. William Blight revint en 1792 à Tahiti sur le Providence afin d'accomplir la mission que lui avait été confiée avec la Bounty, c'est-à-dire transporter des plants d'arbres à pain de Tahiti aux Antilles afin d'y nourrir à bas prix les esclaves des plantations. Il le fera scrupuleusement et lors de sa navigation vers l'Amérique, il ira jusqu'à l'île de Mangareva et passa de nuit très au large de Pitcairn sans savoir que là résidaient les mutins du Bounty qui étaient à l'époque encore tous en vie. Une première école anglaise est créée à Papeetoea en 1808, mais la même année, la mission décide de se réfugier dans l'île d'Huaïné. Le couple Henry et leurs 4 enfants vont, eux, à Sydney, alors en plein essor, puis reviennent à Moréa, à 15 milles en face de Tahiti, en 1811. Sarah Henry meurt en 1812 et le révérend, de retour à Sydney, épouse alors Anne Shepherd, âgée de 15 ans, puis revient dans l'île. Le premier de leurs 11 bambins est une fille, Anne, premier enfant occidental à naître à Moréa. Assez vite, près de 700 enfants seront scolarisés. On éduque, on alphabétise, on habille de blanc les jeunes filles, on met des pantalons aux hommes, on parle du démon et l'on détruit tous les signes des cultes païens antérieurs. La mission de Moréa est dite en 1817 le premier livre de Gospels en tahitien et le roi Pomare II finit par être baptisé en grande pompe le 19 mai 1819. Par ailleurs, le révérend William Pascoe Crook, sa femme et leurs 9 enfants, crée le premier établissement permanent sur l'île de Tahiti, dans un village pourvu de rivières, qu'il nomme Wilkes Harbour, en l'honneur du directeur de la London Missionary Society, le révérend Osmond, parent d'Henri, qui aura lui aussi une nombreuse descendance, parcourt l'archipel et l'évangélise. Toutefois, et c'est là que l'histoire devient intéressante pour les Français, l'arrivée le 29 novembre 1836 de deux missionnaires catholiques français déclenche une sorte de guerre de religion à Tahiti. En effet, le pasteur protestant Pritchard, qui fait aussi office de consul, les fait arrêter, puis expulser dès décembre 1837. Le gouvernement français envoie alors un bâtiment de guerre commandé par Dupetit Thouars, lequel fait signer à la reine Pomaré IV une convention accordant le séjour libre, la protection commerciale et professionnelle aux Français. C'est un acte daté du 4 septembre 1838. Le révérend Pritchard est furieux et fait alors le voyage de Londres pour tenter d'obtenir le protectorat britannique. Mais il échoue. Finalement, plutôt à contre-cœur, la reine Pomaré choisit le protectorat français par une convention signée le 25 mars 1843, à l'exemple des marquises qui ont pris cette option en 1842 afin d'échapper aux tracasseries nord-américaines, et les Gambiers feront de même en 1844. De nombreux incidents surgissent alors. Pomaré IV fuit à Raiatea, Victoria se plaint à Louis-Philippe, demande un désaveu et une indemnité pour Pritchard. Louis-Philippe plie. S'ensuit une période troublée de rébellion maîtrisée par le capitaine Bonnard. Après 1850, on assiste à une pacification progressive menée par le Second Empire français où coexistent protestantisme et catholicisme. Napoléon III annexe les Tuamotu et les Britanniques, eux, sont à ce moment très occupés par le développement florissant de Sydney et alentour en Australie et surtout par l'Inde. Et ils délaissent ces poussières d'îles lointaines qu'ils jugent finalement peu rentables et trop compliquées à gérer. La France envoie alors militaires et missionnaires. On passe de l'anglais au français, la reine Pomaré IV s'installe à Harué, dans la proximité de Wilkes Harbour, proclamée capitale, et qui ne prendra le nom de Papeete que le 20 mai 1890 sous la Troisième République. C'est cette Troisième République qui est la véritable colonisatrice. Elle envoie des troupes, des administrateurs civils, des instituteurs, le drapeau tricolore. C'est à ce moment aussi, un peu paradoxalement d'ailleurs, que les missions catholiques françaises se développeront le plus, car beaucoup de religieux préfèrent ne pas s'exposer au laïcisme militant des débuts de la République en métropole. Croyant bien faire et servir Dieu, ils détruiront systématiquement une grande partie de la culture ancestrale polynésienne. D'ailleurs, le contentieux reste lourd à ce sujet. La reine Pomaré meurt en 1877 et son successeur, Pomaré V, de santé précaire, finit par abdiquer en 1880, cédant la place pour une annexion définitive par la France le 30 décembre 1880. Le 5 mars 1797, jour dit arrivée de l'Évangile, est donc un jour férié, célébré avec foi et enthousiasme à Tahiti, à Moréa et dans d'autres îles de la société, toute obédience chrétienne confondue. On y célèbre Dieu en chantant les gospels issus du premier livre dans des processions fleuries, débordantes de musique. Le révérend Ebenezer Henry est mort à Sydney en 1859, âgé de 89 ans. Il aura baptisé plus de 600 adultes et 379 enfants à Moréa. Ses nombreux descendants, plus de 200 à ce jour, sont partout dans le Pacifique, aux îles Cook, en Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, aux Fidji, à Samoa, à Hawaï et en Australie. Ils ont écrit un livre très émouvant, The Spreading Tree, rendant hommage à Sarah et à son fils aîné, le capitaine de la Navy, Samuel Pender Henry, qui découvrit d'ailleurs l'île de Rimatara. L'Ebenezer Church de Moréa, une étrange construction octogonale peinte en jaune et blanc, fut la première église construite en dur à Moréa entre 1822 et 1827 et, fait piquant, le seuil de son jardinet est orné d'une énorme et magnifique pierre levée des cultes traditionnels polynésiens. Le complexe mélange des intérêts économiques, diplomatiques, maritimes et religieux a fait que les îles de la Société sont devenues françaises lors des nombreux changements de main de ces poussières disséminées dans le bleu et bel océan Pacifique. On pourra lire avec intérêt, en langue anglaise, « The Tahitians » par Patrick O'Reilly.